les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli.
Bonjour à tous. Pour commencer cette chronique, j'aimerais, une fois n'est pas coutume, vous expliquer comment elle est née. Au détour du parking d'un petit village de notre vallée, je suis tombé nez à nez sur l'arrière d'une camionnette où était peint un portrait d'un célèbre entrepreneur français, homme d'affaires sans scrupules, qui a même fait de la prison, mais qui, il y a 35 ans, était propriétaire d'un club de foot devenu le premier à tout jamais à remporter la Ligue des Champions en 1993. Vous voyez de qui je veux parler, n'est-ce pas ?
Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais puisque j'ai la chance de vous voir en vrai, c'est quoi avoir le sens des affaires ?
Le sens des affaires ? Bah pour être simpliste, mais c'est pas loin d'être ça quand même, vous n'achetez jamais ce qui est à vendre. Puis quand vous voulez vendre quelque chose, vous marquez dessus que c'est vendu.
Vous n'achetez jamais ce qui est à vendre,
ouais.
Et quand vous voulez acheter quelque chose, et quand vous voulez vendre quelque chose, vous marquez dessus que c'est vendu.
Voilà.
C'est énorme.
Et c'est pour ça que les hommes mariés ont tant de succès.
Je comprends pas tout, mais c'est énorme.
Cet homme qui a été reconnu coupable de tricherie, de corruption de joueurs, qui a fait 6 mois de prison pour ses faits avérés, garde pour autant une aura indescriptible pour le club de foot de la deuxième ville française. Et à l'arrière de cette camionnette, une légende indiquait sobrement son surnom, le boss. Je fus stupéfait. Le conducteur devait être un jeune enfant à l'époque de la victoire face à Milan. Comment pouvait-il mettre une telle affiche à l'arrière de son véhicule ? Alors que les faits démontraient que cet homme d'affaires était avant tout un type malhonnête. D'où vient une telle idiotie ? Oh, bien entendu, un tel mot est chargé. L'idiot, c'est l'abruti, celui qui ne comprend rien, celui dont le QI est si faible qu'il se laisse embobiner par de grosses ficelles. Ai-je le droit d'insulter ainsi quelqu'un que je ne connais pas ? Il pourrait me rétorquer que c'est moi l'idiot, car je ne comprends rien à l'esprit foot, à ce qui fait le ciment d'une équipe lors de grands rendez-vous, à l'émotion qui submerge très largement la raison, etc., etc.
Je veux qu'on leur mette une branlée au PSG. Je veux qu'on les bouffe.
Allez, venez !
Là, c'est pas juste l'OM contre le PSG ce soir. C'est le peuple contre les élites parisiennes.
Folie, merde !
Folie gourmande.
Qu'est-ce que tu branles, là ? Alors ? Ça pionce, ça pionce !
C'est les petits gars du Vieux-Port contre les petits bourges de la Porte d'Auteuil. Hein, ceux qui ont le pouvoir, soi-disant, qui nous regardent d'en haut, là, comme des merdes.
L'arbitre de sortir ses cartons, là ! Il y a un rouge pour Colter !
Je veux pas voir du football ce soir. Je veux voir la guerre.
Oui, mais les faits sont têtus. Lorsqu'il était à la tête du club de foot, ce « boss » achetait les joueurs adverses pour s'assurer la victoire. Même si, à tout jamais, il amena le premier un club français jusqu'au toit de l'Europe, il y a eu d'autres entraîneurs, honnêtes, d'autres présidents de clubs. Pourquoi reste-t-il une figure légendaire plusieurs années après sa mort ? Pourquoi ? Une des réponses se trouve sans doute dans le double sens du mot « idiotie ». L'idiotie, que l'on retrouve dans le titre d'un livre de philosophie écrit en 1974 par Clément Rosset, est un mot qui vient du grec et qui veut dire « unique ». Cela a donné l'idiosyncrasie, caractère particulier d'un individu, ou alors l'idiome, qui a une particularité linguistique qu'on retrouve que dans une seule langue, à l'exclusion de toutes les autres. L'idiot, par extension, c'est celui qui ne voit que son point de vue, à l'exclusion de la multiplicité des perspectives. Je suis idiot lorsque je ne comprends pas l'émotion du supporter de foot, qui vénère l'ancien président de son club, telle une légende presque divine. Mais est idiot également celui qui ne veut pas comprendre que cet homme d'affaires était un roublard, un excellent acteur, mais avant tout quelqu'un qui a cherché à acheter les joueurs de l'équipe adverse. Tâchons de comprendre cela. L'idiotie trouve sa source dans un fait fondamental. La réalité est nue de tout sens. Les faits sont les faits et c'est nous, les êtres humains, dotés d'une conscience, d'idées préconçues, qui interprétons la valeur de ces faits. C'est la thèse de Clément Rosset et qui explique peut-être pourquoi nous ne pouvons pas être d'accord, moi et ce fan, de l'homme d'affaires grande gueule. Attention, dire cela, ce n'est pas s'engager dans un relativisme qui paralyse notre faculté de penser, de réfléchir. Je ne serai pas comme le philosophe sceptique Pirondelis qui renâclait à trancher sur la vérité ou la fausseté de ce qui est constaté et qui pratiquait une stérile époque, la suspension du jugement. Il ne s'agit pas de tout accepter sans coup férir, au nom d'une tolérance lâche. Il y a des interprétations du réel idiotes, au sens premier du terme, et il existe même des stratégies pour les imposer. C'est bien là le danger qui a attiré mon attention. Notre monde vit de plus en plus sur le modèle appelé sournoisement « vérité alternative », où les opinions les plus excentriques, les plus radicales, se répandent de manière virale. Nos hommes et femmes politiques, en l'occurrence j'ai en tête plutôt le nom d'une femme politique à l'énergie, disons, à la hauteur de ses ambitions, mais faisant fi de la réalité pour défendre ses intérêts, tous adhèrent à une lecture simpliste de leur programme, des phrases courtes, des idées raccourcies et des prises de position clivantes, souvent odieuses, et ce, quel que soit leur positionnement sur l'échiquier politique.
Je ne veux pas savoir ce que tu penses de moi, mais je veux te dire pourquoi.
Pourquoi cela marche-t-il? Pourquoi est-on sensible à l'hystérie des slogans qui ne disent rien, mais qui provoquent de l'émotion? Car c'est de l'émotion que j'ai ressenti face à l'image du boss. Un mélange de colère, de dégoût, peut-être même de mépris pour celui qui l'avait collé. Pourquoi une telle tempête dans ma tête? Ce que j'ai découvert, en lisant Clément Rosset, c'est que cette idiotie obéit à une mécanique bien huilée, décomposola. Un des rouages les plus puissants est la grandiloquence du propos. Dire un fait en quelques mots pour en réduire la compréhension, mais dans le même temps en exagérer l'importance, est une stratégie bien connue des publicitaires.
Voyez-vous, ce livre, indépendamment de son contenu, est déjà un objet d'art en soi. Imprimé sur velin de lana, illustré en couleur, la beauté de ses planches ne vous échappera pas. Mais commencez toujours par montrer les planches de la famille. Et manipuler le livre avec délicatesse, voyez-vous. Un livre est un objet digne de respect, hein, le respect, monsieur Ansel.
Absolument.
N'oubliez pas que nous avons affaire à des gens qui ne sont pas des Lumières.
Eux n'ont que faire du réel. Ils réduisent tout à une simple phrase qui marque les esprits et qui cherche à tromper sans mentir. Tromper sans mentir. Voilà un art qui a été longtemps peaufiné par des experts de tout poil. Prenons un exemple simple. Depuis quelques années, je peux lire dans les rues de Béziers que c'est la capitale mondiale du vin. Il y a même une exposition permanente dans un centre commercial qui revendique ce leadership, bien entendu totalement extravagant. Capitale mondiale du vin. De qui se moque-t-on alors que le Bordelais et la Bourgogne offrent des cuvées légendaires mondialement connues? Suffit-il d'afficher une vérité alternative pour qu'elle soit valide? Pas tout à fait. Lorsqu'on relit l'argumentaire de l'Office du tourisme de Béziers, on comprend. À la fin du 19e siècle, le phylloxéra ravagea les vignobles français, sauf à Béziers, qui devint de fait la capitale de production du vin. Cette position dominante lui permit, en 1914, de fournir l'armée française en quantité presque industrielle. C'est vrai, Béziers était alors la capitale du vin, mais par défaut, car les autres régions étaient sinistrées. Et sans s'intéresser à ce qui fait l'intérêt du vin, à savoir sa qualité gustative. Le vin de Béziers n'était que de la vinasse. Mais si le slogan peut balayer la réalité, il ne faut pas hésiter à en rajouter. Et surprise en lisant le livre de Clément Rosset, écrit il y a 50 ans, la mairie de Béziers avait déjà utilisé la même rhétorique. Béziers, capitale du monde. Sans doute sur le même thème, à une époque où les quantités produites faramineuses de vin médiocre étaient encore une réalité. Ce qui est intéressant, remarque Clément Rosset, c'est que la grandiloquence doit être brève pour être efficace. Quelques mots, détachés de la réalité, sont plus inattaquables qu'un long argumentaire qui prêterait son flanc à la critique. On oublie très vite, même si c'est éphémère, que Béziers n'était que la sous-préfecture d'un département pas très développé à l'époque. La grandiloquence, tout compte fait, c'est être capable de mauvaise foi et d'audace. On impose ce qui n'est pas réel, car on se moque du réel. C'est exactement la même stratégie en qualifiant un certain Bernard de « boss ». Personne n'y croit, mais on le revendique. C'est un peu avoir le sens des affaires et ne pas attendre qu'un produit soit qualitatif pour en faire un succès. La grandiloquence est en fait un glissement de la réalité idiote en deux moments. Tout d'abord, sur l'importance objective qu'on lui accorde, pour qu'il y ait un emballement. Le boss du football l'avait bien compris lorsqu'il monta de toutes pièces la rivalité entre son club de foot, censé être la capitale des va-nu-pieds, et celui de la capitale française. Cela permit de donner à des matchs une importance presque vitale pour certains supporters. Et il y a un deuxième décalage, celui entre la chose et le ton utilisé. Le style joue un grand rôle lorsqu'on veut faire l'idiot. L'utilisation martiale d'une évidence scandée comme un argument d'autorité suffit, même si ce qu'on a à dire ne représente pas grand-chose. Clément Rosset l'écrit, « La grandiloquence parle bien, mais parle de rien, au pluriel, des tout petits riens, ceux qui n'attirent normalement pas l'attention, ceux qu'on oublie aussitôt passé. Tout l'art se trouve dans la capacité à exagérer et à oublier ce qui est gênant. »
Mieux vaut ne penser à rien que ne pas penser du tout. Rien c'est déjà, rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout.
Vous me direz, quel mal y a-t-il à cela ? Les supporters de l'OM sont heureux et ont rendu hommage à leur ancien propriétaire dans un moment de communion rare aujourd'hui lors de ses funérailles. Béziers se trouve valorisé par ce passé riche lorsque les vignobles permettaient de construire de fastueux hôtels particuliers. Quel mal y a-t-il à cela ? Aucun, si vous n'êtes pas attaché à l'idée de vérité. Il n'y a pas l'ombre d'un souci si, définitivement, vous pouvez croire que la réalité est nue et qu'il n'y a que des interprétations, que des points de vue, que des angles d'attaque. Mais dans ce cas, nous risquons de vivre de plus en plus séparés les uns des autres, comme des archipels qui ne communiquent pas. Il y a entre moi et ce supporter de foot comme une tranchée infranchissable. Nous ne pouvons pas nous comprendre, idiots que nous sommes. Cette chronique sera rediffusée dimanche à 17h et reste disponible sur le site de Radio Pays des Roses sous forme de podcast. N'hésitez pas à réagir, à m'envoyer des questions ou des commentaires pour prolonger ce petit moment de philosophie. Je remercie RPH Sud et plus particulièrement Solène à la technique et au montage. Et je laisse le dernier mot à Jacques Higelin.
Surtout ne te